Le bulletin du handicap. Bonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce mercredi 29 juillet 2015. Tout d'abord, une mise en garde importante contre l'inaccessibilité de Windows 10 qui sort aujourd'hui. Création d'une nouvelle application pour recenser tous les lieux accessibles. Une paraplégique française devra rembourser son indemnité de 80 000 euros. Et finalement, en sport, on n'est plus qu'à une semaine avant le début du relais de la flamme des Jeux para-panaméricains. La très attendue mise à jour du logiciel d'exploitation de Microsoft Windows 10 est disponible en téléchargement de manière tout à fait gratuite depuis aujourd'hui. Toutefois, l'Institut Nazareth et Louis Braille a fait parvenir à ses membres un communiqué, une mise en garde, recommandant aux utilisateurs malvoyants ou aveugles de ne pas télécharger la mise à jour immédiatement puisqu'elle serait inaccessible aux personnes malvoyantes. En effet, les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 ont reçu et recevront sous peu une offre pour télécharger et installer gratuitement la mise à jour de Windows 10. Selon le site officiel de Microsoft, cette offre gratuite serait disponible pour une période d'une année, suivant la sortie officielle de cette importante version. L'Institut Nazareth et Louis Braille met en garde les utilisateurs de logiciels adaptés tels que Zoom Text, JAWS et NVDA, qu'aucune version disponible présentement n'est compatible avec Windows 10 et que les premières versions dites compatibles révèlent souvent des lacunes importantes. Par conséquent, il est très important d'attendre avant de procéder à l'installation de cette mise à jour afin de s'assurer que vos adaptations restent fonctionnelles. L'Institut Nazareth et Louis Braille poursuit en invitant les utilisateurs à la prudence en attendant une nouvelle communication de leur part à cet effet. L'application Internet I Will Share permet de recenser les lieux accessibles aux personnes handicapées. Un appel au financement participatif a été lancé pour lancer l'application sur les mobiles. En 2014, Audrey Sauvignet s'est lancée dans la création d'une application qui permet aux personnes handicapées de partager sur une carte collaborative leur expérience sur l'accessibilité des lieux. Début juillet, la jeune développeuse web a réussi à réunir les 15 000 euros nécessaires sur un site de financement participatif afin de lancer son application sur Android, qui est actuellement en phase d'expérimentation. Afin de tester la version d'essai de celle-ci, il suffit d'envoyer un courriel à contact@iwillchair. Pas besoin d'être expert en code informatique pour devenir contributeur. La période de test est ouverte à tous, aussi bien aux personnes en situation de handicap qu'aux parents avec poussette. Où qu'il soit, l'utilisateur peut signaler un endroit sur la carte de l'application. Ensuite, il relate son expérience dans des rubriques établies en fonction du handicap concerné. Par exemple, un lieu sera catégorisé « ça roule » s'il est accessible en fauteuil roulant ou « bâton dans les roues » dans le cas contraire. L'objectif, c'est aussi de réduire les distances entre les gens. Audrey explique qu'elle a rencontré beaucoup de témoignages sur Internet, mais leur visibilité était réduite à un cercle communautaire et fermé. Celle pour qui la sensibilisation à l'accessibilité est devenue un combat depuis que son petit frère Luca s'est retrouvé paraplégique à la suite d'un accident de la route il y a 3 ans. Les signalements portés par les contributeurs sur la carte interactive sont appelés à faire évoluer les lieux identifiés comme inaccessibles. Ces opérations se veulent positives. Il s'agirait, selon Audrey, d'organiser des actions pour participer au financement des aménagements de petits commerces, souvent dépassés par les exigences, de mise aux normes. La phase de test de l'application se poursuit tout l'été et son lancement au grand public est prévu en septembre. C'est un texte tiré du journal lacroix.com. À 5 ans d'intervalle, le tribunal administratif de Caen peut décider d'une chose puis de son contraire. En janvier 2011, ce tribunal reconnaît, selon la procédure d'urgence, la responsabilité de l'hôpital psychiatrique de Caen dans la fugue en novembre 2005 d'une patiente mineure et suicidaire. Celle-ci s'est ensuite jetée des remparts du château de Caen et est restée paralysée des jambes. Elle est depuis clouée dans un fauteuil roulant. Elle obtient une avance sur indemnité de 80 000 euros, tandis que ses parents touchent 30 000 euros. Ce jugement est confirmé en appel. La responsabilité de l'hôpital n'est pas contestable, a dit la Cour d'appel de Nantes. Et le pourvoi en cassation de l'hôpital n'est pas admis par le Conseil d'État. Mais en mai dernier, les juges administratifs de Caen examinent ce dossier au fond. Cette fois, ils écartent toute responsabilité de l'hôpital dans la surveillance de la patiente et rejettent la demande d'indemnité. Selon le rapporteur public du tribunal, les avances devront donc être remboursées. Pourtant, les faits et les rapports d'expertise à l'origine de ces deux jugements contradictoires restent les mêmes. En novembre 2005, l'adolescente de 16 ans, qui souffre d'anorexie mentale depuis 2 ans, fait une nouvelle tentative de suicide. C'est la troisième depuis avril 2004. Faute de place au service de pédopsychiatrie à l'hôpital de Rouen, la patiente est temporairement admise à l'hôpital psychiatrique de Caen dans le cadre d'un placement volontaire. Recommandant une vigilance plus face au risque de suicidaire persistant, les médecins interdisent à l'adolescente d'aller seule à la cafétéria ou de sortir seule du service. Les médecins ajoutent « Les vêtements personnels et objets dangereux doivent être retirés avec possibilité d'isolement et de contention. » En dépit de ces mises en garde, un infirmier dépose les vêtements de l'adolescente dans sa chambre. Elle s'habille, traverse le service, gagne la cafétéria théoriquement sous surveillance de 2 agents, et où une infirmière tente en vain de la rattraper. La jeune fille quitte l'hôpital et se rend au château de Caen, où elle monte sur les remparts, d'où elle se jette. Des agents hospitaliers recherchent en voiture la fuyarde, en vain. L'hôpital a prévenu les parents et la police, mais tardivement, selon l'avocat de la famille. De même, la description des vêtements de la fugitive faite à la police n'était pas conforme à la réalité. Autant d'erreurs qui, selon l'avocat de la famille, ont abouti à la condamnation en référé de l'hôpital pour défaut de surveillance. La patiente, aujourd'hui étudiante, et ses parents ont fait un appel au dernier jugement en notant que le tribunal administratif retient un défaut momentané de surveillance sans en tirer les conclusions. Susceptibles de devoir être remboursés, les avances sur indemnité ont été consacrées à des aménagements à la maison et à l'achat d'une voiture adaptée au fauteuil roulant de la jeune femme, qui a par ailleurs besoin de l'aide d'une tierce personne 4 heures par jour, une tâche assumée jusqu'à présent par ses parents. Ces derniers, aux côtés de la jeune femme, réclament tout préjudice confondu, une somme d'1,3 million d'euros. C'est un texte de lepoint.fr. Les malvoyants vont pouvoir se déplacer plus facilement dans les rues grâce aux montres intelligentes. L'application Via Opta de Novartis est désormais compatible avec l'Apple Watch et les montres connectées Android Wear. Celle-ci permet aux personnes souffrant d'une déficience visuelle de se guider plus aisément. Cette application emploie la reconnaissance vocale et le système de navigation appelé Turn by Turn pour aider les utilisateurs à atteindre leur destination. Comme pour l'application Plans, l'Apple Watch utilise également son système de vibration pour indiquer quand et où le porteur doit changer de direction. En plus de cela, l'utilisateur pourra créer des favoris simplement ou naviguer vers d'autres endroits comme le supermarché ou le parc le plus proche. L'application Via Opta va même plus loin. En cas de souci, elle permet de partager la position GPS du porteur avec ses proches. Elle utilise les données open source d'OpenStreetMaps qui permettent d'accéder à un grand nombre de points d'intérêt. C'est encore un texte de lepoint.fr. Et en terminant une nouvelle sportive, on n'est plus qu'à une semaine du début des Jeux para-panaméricains et le relais de la flamme approche en grands pas. C'est une première dans l'histoire du relais de la flamme. 2 flammes, une dans l'Est et l'autre dans l'Ouest, vont être allumées le 3 août lors des cérémonies toutes particulières qui auront lieu à Ottawa et à Niagara Falls. La flamme va traverser en tout 12 collectivités avant de se réunir à Toronto pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 7 août au stade d'athlétisme panaméricain de CIBC. En tout, j'avais noté ici le nombre d'athlètes que je ne retrouve plus. C'est 50 porteurs qui vont se partager le relais de la flamme. Donc, c'est tout pour le bulletin aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis aussi à demain pour une prochaine édition de ce bulletin.